Chers frères et sœurs, il y a dans notre actualité française chaque année un moment qui est en général consacré à la question du délit de blasphème. Et cette année encore, nous y avons droit et il n'est pas nécessaire de penser que la chose est réglée. Je pense que l'an prochain, nous aurons un nouveau droit à notre question du blasphème et du délit de blasphème. Ce débat, comme d'habitude, voit s'affronter deux blocs. Il y a d'un côté les tenants de la liberté d'expression qui considèrent qu'il ne faut pas mettre dans la loi le moindre délit de blasphème. Et puis, il y a de l'autre côté, en général, des croyants qui considèrent que des paroles, des actes sont blasphématoires. C'est-à-dire qu'elles sont offensantes envers leur Dieu et que ces paroles, ces actes, doivent être sanctionnés. La question de la liberté d'expression est un sujet qui relève du droit. C'est un sujet aussi pour lequel des croyants se sont exprimés, ont réfléchi et ont fait des propositions. Et l'un des plus talentueux est certainement John Milton, qui au XVIIe siècle, après que le Parlement anglais a décidé d'imposer une censure, a écrit un libelle intitulé « Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure ». Et je vous cite juste un paragraphe de Milton pour que nous ayons en tête un argument contre la censure. Un argument pour la liberté d'expression. Il écrit ceci, en reprenant peut-être l'image du bon grain et de l'ivraie. Il écrit « Le bien et le mal ne croissent pas séparément dans un champ fécond de la vie. Ils germent l'un à côté de l'autre et ils entrelacent leurs branches de manière inextricable. La connaissance de l'un et donc nécessairement liée à celle de l'autre. Comme tissée avec elle, et sous tant de ressemblances subtiles qu'il se distingue fort peu. » Par ces quelques mots, John Milton nous incite à ne pas faire la chasse aux fake news, du moins à les interdire. Parce que interdire les fake news, ce serait aussi interdire la vérité. Vouloir interdire le mensonge, c'est interdire la vérité. Et c'est pour cela que la censure n'est pas une pratique recommandée par les amoureux de la liberté ni par les amoureux de la vérité. Jésus le disait bien, n'essayez pas d'arracher les mauvaises plantes, sinon vous arracherez aussi les bonnes en même temps. Nous pourrions prolonger, pour revenir à cette question du blasphème, en prolongeant par cette idée selon laquelle vouloir interdire le blasphème reviendrait aussi à interdire la profession de foi. Et peut-être est-ce cela d'ailleurs qui motive quelques-uns à vouloir interdire le blasphème. C'est peut-être une manière aussi d'interdire la profession de foi. D'ailleurs, quand on regarde quels sont ceux qui se positionnent dans ce débat, il est frappant de constater qu'il arrive souvent que les défenseurs du droit au blasphème soient en fait ceux qui ont quelques motivations pour pouvoir porter des attaques assez féroces contre une religion en particulier. Mais là n'est pas vraiment la question pour nous, je crois. Car nous n'avons pas vraiment à nous placer sur la question du droit. Nous pouvons constater d'ailleurs que la liberté d'expression trouve quelques limites dans le droit français, puisque le droit pénalise de nombreux types de propos, soit parce qu'ils sont racistes, soit parce qu'ils sont homophobes, ou qu'ils relèvent de la diffamation. L'idée est la suivante, s'attaquer à la dignité d'une personne, c'est s'attaquer à la société elle-même. Car la société, dans ses fondements, est nourrie par la dignité des personnes. Et donc, Il l'avait copieusement distallé en l'accusant d'avoir du sang sur les mains et d'usurper le trône d'Israël, qui en principe devait revenir à quelqu'un de la maison de Sem. Et Abishai, valeureux conseiller du roi David, avait recommandé qu'on lui inflige la peine capitale. Ce que David n'avait pas approuvé. Alors que Shimei et David se retrouvent à nouveau, nous comprenons un peu mieux la motivation d'Abishai. Nous comprenons un peu mieux pourquoi Abishai avait proposé qu'on coupe la tête de Shimei. Il y a dans ce récit un élément nouveau. C'est qu'Abishai déclare que Shimei a maudit le Messie de l'Éternel, c'est-à-dire David, qui a reçu l'onction. Quand nous réalisons que la peine de mort est prévue par le livre du Lévitique pour celui qui maudit Dieu, c'est le même verbe en hébreu talal, ça veut dire alléger, rendre insignifiant, eh bien nous comprenons qu'Abishai accuse Shimei d'un délit de blasphème. Et pour sa part, David résiste à la demande de Shimei, à la demande d'Abishai, pardon, qui consisterait à mettre Shimei à mort pour cause de blasphème. David refuse cette pénalisation du blasphème. Mais il ne le fait pas pour la liberté d'expression. Il ne le fait pas non plus pour un motif politique. Il le fait pour une raison théologique. Et c'est celle-là qui devrait nous intéresser. C'est celle-là que nous pourrions faire valoir dans le débat sur faut-il ou non un droit au blasphème. Il le fait en vertu de la théologie qui devrait considérer qu'il ne peut pas y avoir de délit de blasphème, non pas parce que ce serait mal, mais parce que le blasphème n'existe pas. C'est cela l'argument que les théologiens devraient développer. Il ne peut pas y avoir de délit de blasphème parce qu'il ne peut pas y avoir de blasphème, au sens strict du terme. Le blasphème est impossible pour les raisons que nous connaissons, nous qui nous intéressons un peu à la pensée théologique de Paul Tillich, c'est que Dieu est toujours au-delà de Dieu. Dieu est toujours au-delà de nos discours, au-delà de nos représentations, au-delà de ce que nous pouvons en dire, en bien ou en mal. Ça veut dire que nos discours ne peuvent jamais atteindre Dieu. Nos caricatures ne peuvent jamais concerner Dieu. Cela signifie que Dieu étant toujours au-delà de nos représentations, il ne saurait y avoir de blasphème au sens public. Il y a bien sûr des théologiens qui pensent pouvoir dire Dieu, qui pensent pouvoir le définir, le faire entrer dans quelques doctrines ou dans des dogmes. Et peut-être serait cela d'ailleurs le blasphème. Et au fond, ils ne font que se bercer d'illusions, et donc il ne touche pas l'être de Dieu. Il n'y a pas de blasphème envers Dieu, car Dieu n'est pas au niveau de ce que nous pouvons déployer comme horreur pour nous en prendre à Dieu ni à ce qu'il désigne. Et c'est ce qu'a développé la théologie de bien des auteurs bibliques bien avant le XXe siècle. Ce n'est pas une lubie de quelques théologiens contemporains. C'est dans les textes bibliques eux-mêmes que nous trouvons cette idée que Dieu est au-delà de Dieu. C'est notamment sous la plume des rédacteurs du Deutéronome et des textes qui lui sont affiliés. Ce texte fait partie de l'histoire deutéronomiste. Il y a dans tous ces textes l'idée que Dieu est au-delà de ce que les prêtres peuvent dire. C'est la raison pour laquelle les rédacteurs bibliques ont symboliquement mis Dieu au ciel. Au moins, il n'est pas immédiatement accessible. C'est aussi la raison pour laquelle le rédacteur deutéronomiste a fait un petit glissement, souvent imperceptible mais particulièrement significatif. C'est de passer de Dieu au nom de Dieu. Et comme le verrons bientôt en lisant le 8e chapitre du livre des Rois, lorsque Salomon inaugure le temple de Jérusalem, c'est le nom de Dieu qui habitera le temple, parce qu'évidemment, Dieu excède toutes les constructions humaines, qu'elles soient matérielles ou idéologiques. En déclarant que Shimei a maudit le Messie de l'Éternel et qu'il faut tuer Shimei, Abishai assimile Dieu au Messie. Il considère que les deux ont fusionné. Nous sommes déjà dans les querelles des premiers conciles chrétiens. Le Messie est-il pleinement Dieu? David récuse cette idée en considérant que Shimei n'a pas blasphémé contre Dieu en disant du mal de son Messie. Il y a une distance entre les deux. Les deux ne sont pas de même nature. Et, petit détail tout à fait intéressant dans le texte hébreu, David va désigner Abishai, celui qui voudrait que Shimei soit mis à mort. Il va désigner Abishai et ses frères d'un terme particulièrement sympathique en ce temps de carême. Dans le texte hébreu, il dit qu'il est. C'est traduit par adversaire dans notre traduction. Il est Satan. David accuse Abishai d'être Satan, l'ennemi de Dieu, l'adversaire. Abishai et ses frères sont Satan, comme Pierre, ce disciple que Jésus accuse d'être Satan, parce que Pierre assure qu'il n'arrivera jamais rien de mal à Jésus dans l'évangile de Matthieu. Satan, c'est aussi le diable. Lors des 40 jours que Jésus passe au désert, toujours dans l'évangile selon Matthieu, sont Satan ceux qui veulent s'arroger le pouvoir sur Dieu. Ceux qui déclarent savoir ce que Dieu veut et qui veulent imposer aux autres ce qui n'est finalement que leur propre vision du monde ou ce qui n'est que la somme des frustrations qu'ils ont eues. Pierre pense savoir quel sera le véritable destin du Messie, du Christ. Jésus récuse cette vision déterministe de l'histoire. Il récuse que Pierre, le théologien, sache le dernier mot de l'histoire et qu'au fond, il impose à Jésus un rôle qui n'est pas le sien. De même que Jésus récuse le diable de pouvoir déterminer s'il aura ou non le pouvoir sur le monde, le pouvoir sur les choses. Les Adams sont ceux qui veulent imposer leur ordre du monde aux personnes. Ils se placent dans un camp du bien, en dehors duquel ils estiment qu'aucun salut n'est possible, car en dehors de leur vision du monde, tout n'est que mensonge. Ils sont Satan, ceux qui instrumentalisent Dieu pour imposer leur propre désir à autrui, pour obliger les autres à tenir un rôle, et en l'occurrence, à faire jouer au Messie un rôle qui ne lui incombe pas. Et bien souvent, le rôle qui est infligé au Messie, c'est d'être tout puissant, d'avoir toute puissance sur le sort des individus. David se révèle beaucoup plus impuissant que le fantasme d'Abishai, beaucoup plus fragile, et du coup, beaucoup plus miséricordieux aussi. Ils sont Satan, ceux qui veulent vous enfermer dans un scénario écrit à l'avance, dans un destin. Ils sont Satan, ceux qui veulent faire de vous leur quelque chose, leur petite chose. Alors, il a souvent bon dos le délit de permet en fait de détourner le regard des véritables problèmes, qui sont souvent l'indigence de la pensée, qui consiste à crier avec la meute sans réfléchir. Problèmes qui sont les idéologies moribondes, qui servent à défendre des intérêts privés, des satisfactions personnelles. Il n'y a encore pas très longtemps, on entendait telle ou telle personne qui, dans le cadre d'un accompagnement spirituel, pouvait se déclarer le Messie ou Dieu pour imposer sa propre volonté à la personne qui lui faisait confiance. Il y a des instrumentalisations du blasphème ou de la liberté d'expression aussi pour défouler ses propres pulsions. Mais il n'y a pas de délit de blasphème, parce qu'il n'y a pas de blasphème. Il n'est pas possible de blasphémer Dieu, car nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de prise sur lui. Même lorsque les prêtres d'Israël penseront avoir la main mise sur Dieu par le rite, les prophètes diront : Dieu n'a que faire de vos rites, lui qui est intéressé par la justice sociale et non par vos sacrifices. Même lorsque les prêtres d'Israël penseront avoir la main mise sur Dieu par la construction d'un sanctuaire en bonne et due forme, le rédacteur de Théronomiste reviendra à la charge en disant que c'est Dieu lui-même qui décidera de faire poser son nom ici ou là, mais que ce n'est pas les lieux ou les personnes qui imposent leur diktat à Dieu. Il n'y a pas de délit de blasphème parce qu'il ne peut pas y avoir de blasphème. Car Dieu, en tant qu'il est la puissance créatrice d'une vie véritable, d'une vie portée au niveau d'une existence, et toujours au-delà de notre pouvoir de nuisance. Et Dieu, ce que Dieu désigne, cette puissance créatrice, peut toujours frayer son chemin, même quand tout est bien mis en place pour lui faire obstacle. Et au fond, le retour de David exprime bien cela, cette possibilité de frayer un chemin à travers une zone semée d'embûches. Et ce que fait David, ici même, dans ce texte, avec la mention du Jourdain, avec la mention de Gilgal, le premier sanctuaire occupé par les Hébreux lors de leur entrée en terre promise, c'est que même lorsqu'on a été expulsé de la terre promise, même lorsqu'on a été expulsé du jardin d'Éden, même lorsqu'on a été expulsé de la société des hommes, il est possible de faire son comeback, de rentrer à nouveau en terre promise. Et d'y prendre bonne part. Et c'est cela que j'aimerais vous proposer comme deuxième point, après la question du blasphème, la question de la rédemption qui est prise en charge dans ce texte. Tout d'abord, il convient de s'intéresser à Shimei, dont il est dit qu'il vient avec 1000 hommes de la tribu de Benjamin. Ceci pour bien comprendre que Shimei n'est pas une position de faiblesse. David est sorti précipitamment pour fuir Absalom qui marchait sur Jérusalem. Et il a tout abandonné. Femme, enfant, pouvoir et moyens matériels. Lorsque David revient vers Jérusalem, c'est Shimei qui est en position de force. Il n'a rien à craindre d'un David qui est comme un fuyard. Par conséquent, lorsque Shimei tombe devant David et qui lui demande de ne pas revenir sur sa faute, de ne pas se souvenir de sa faute, parce qu'il a conscience d'avoir péché, Shimei le fait sans craindre pour sa vie. Il ne le fait pas par peur de représailles, car David n'est pas en mesure de la moindre représailles à ce moment précis de l'histoire. Shimei s'adresse ainsi à David dans un véritable acte de repentance, considérant que dans l'absolu, ce qu'il a fait peut être interprété comme un crime de lèse-majesté qui lui tombe sous le pénal. La réponse de David, tu ne mourras pas, est moins une promesse faite à Shimei qu'une déclaration faite à Abishai, qui ne rêvait plus d'une chose, voir la tête de Shimei placée sur un plateau d'argent, et peut-être placée à la verdicte populaire. Eh bien, je trouve l'attitude de David exemplaire de ce que devrait être notre attitude dans un monde épris de vengeance, de représailles, de mesquinerie, de coups tordus. David remet Shimei dans le dispositif politique du moment. David déclare que Shimei n'a rien à craindre, car il n'est pas un adversaire de la société. Il n'est pas un Satan, contrairement à Abishai, qui, paré de l'auréole de la moralité, est en fait le véritable Satan. Le véritable ennemi de la société, c'est Abishai, l'homme impitoyable, l'homme qui est prêt à sacrifier des personnes sur l'autel de sa vision du bien. Abishai, c'est celui qui a le bougissement à la bouche. C'est celui qui veut régler les problèmes en coupant les têtes, qui veut imposer sa vision du bien à tous ceux qui l'entourent, quelles que soient les conséquences en matière humaine. David, lui, incarne la figure du Messie qui n'est pas en situation de force, qui n'est pas en situation de domination, qui n'est pas en situation d'écraser qui que ce soit, et qui redonne une place aux marginaux, aux lanceurs d'alerte, aux prophètes, aux messagers qui ont souvent à craindre pour leur vie, parce qu'ils sont porteurs de nouvelles que personne ne veut entendre. David est la figure d'une société capable de réintégrer en son sein des personnes qui ont même pu se radicaliser, ce qui par bien des manières est le cas de Shimei, qui avait vociféré, qui avait jeté des pierres, qui n'avait pas forcément fait preuve de mansuétude, et qui, pour autant, ne cesse pas d'être des membres à part entière de la société. Et c'est surtout ce point qui doit nous intéresser sur le plan théologique. Le fait qu'il reste des membres à part entière de la société, en tout état de la société humaine, il ne cesse pas d'être humain pour autant. Même quand le discours de quelques tenants de la morale voudrait en faire des bêtes sauvages. Et encore, ce ne serait pas forcément très respectueux pour les bêtes sauvages. David est la figure biblique de la charité, du pardon, de la rédemption, de la réintégration. Toutes choses qui pourraient nous animer dans nos relations aux autres, à commencer envers ceux qui ont des comportements qui ne correspondent pas forcément à la norme du moment ou à la norme de la majorité. Des personnes qui ne sont pas pour autant des adversaires de l'humanité, des personnes qui ne sont pas pour autant des adversaires de la société, des personnes que David n'aurait pas qualifié de Satan, Jésus non plus. Ses multiples rencontres avec les marginaux en attestent. Contre l'orgueil d'Abishai, qui est prêt à jeter la première pierre, prêt à dégainer la première épée, à brandir le premier la menace d'une déchéance de nationalité, la suppression des allocations familiales, la détention préventive parce que ça ne peut jamais faire de mal, et a fortiori le camp d'internement, David incarne la grâce divine, ne perd jamais de vue l'humanité des personnes. Cette humanité qui parfois gît profondément dans le tombeau qui est devenu l'histoire d'une personne, qui à première vue n'est plus repérable, n'est plus discernable, sauf pour le Messie, qui a ceci de caractéristique, ne pas arrêter son regard à la surface des choses, mais en toutes circonstances, de rechercher l'humanité, même et surtout lorsqu'elle n'est plus visible. Et c'est cela, la puissance de résurrection qui est à l'œuvre dans les textes bibliques, la possibilité de relever Schneil qui est tombé devant David, pouvoir ressusciter cette dignité qui avait été terrassée. Parce que le blasphème n'existe pas, notre dignité, cachée en Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, ne peut jamais être atrophiée, ni même réduite à rien. Peut-être gît-elle au fond d'un mémorial, au fond d'un tombeau. Mais il y a toujours quelques paroles capables de pouvoir la ressusciter. Une parole capable de la ramener dans le monde des vivants, de pouvoir la réintégrer dans la société humaine. Est-ce qu'on a vu de cette vérité théologique que chacun peut être personnellement relevé, rétabli, restauré, et être également au bénéfice de cette parole prononcée par David, et qui dépasse largement le cadre physiologique. Tu ne mourras.